La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, lundi 5 août. Bonjour à tous, bienvenue sur la Radio du Monde. Question d'actualité, débat, décryptage, c'est votre émission. Dans 20 minutes, nous parlerons de la Mauritanie après la prestation de serment de Mohamed Ould Razouani à la présidence du pays. Il a succédé jeudi à son ami de 40 ans, un autre ancien militaire, Mohamed Ould Abdelaziz. Alors cette passation de pouvoir est-elle une simple continuité ou espérez-vous un vrai changement? Quelles doivent être les priorités du nouveau chef de l'État? Vous venez nous le dire, participez au débat par téléphone au 33 9 693 693 70 sur la page Facebook de l'émission ou encore sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. D'abord, une première salle de questions d'actualité pour débuter cette semaine. Notre première intervenant, c'est Macky qui est en ligne de Conakry. Bonjour Macky. Alors, nous n'avons pas Macky, que nous essaierons de retrouver tout à l'heure. Direction Kinshasa en attendant. Julien est bien là, lui. Bonjour. Julien, est-ce que vous nous entendez? Julien n'est pas là non plus. Peut-être qu'on a... Alors, est-ce qu'on a soit Julien, soit Macky à Conakry? Julien, vous êtes là, à Kinshasa. On vous a retrouvé.
Oui, je suis là, je vous entends très bien. Bonjour à tous.
Ah, merci Julien. Vous aviez des questions suite à la décision américaine de sanctionner le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Oui, les États-Unis ont imposé des sanctions responsables de la diplomatie iranienne. Alors, je voulais savoir pourquoi les sanctionner alors que Trump a affirmé vouloir reprendre les négociations avec Téhéran.
Eh bien, nous allons poser la question à François Nicolo qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, oui, bonjour Julien.
Vous êtes spécialiste de l'Iran où vous avez été ambassadeur de France. Alors d'un côté, on a le président Donald Trump qui propose de négocier, mais d'un autre côté, il tord le bras de son interlocuteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette stratégie qui semble pour le moins paradoxale?
En effet, c'est assez difficile à expliquer. On peut l'expliquer par le fait qu'il y a des querelles de factions à l'intérieur de la Maison Blanche, de l'administration américaine. Je ne dirais pas entre faucons et colombes, mais je dirais entre faucons raisonnables et faucons excités. Les faucons excités, vous savez, ils veulent durcir les sanctions au maximum. Et donc, ils avaient présenté un plan où on sanctionnait Zarif, bien sûr. Et en plus, on empêchait l'Iran d'avoir aucune activité nucléaire, même pacifique, hein, puisqu'ils en ont quand même un certain nombre. Et les faucons raisonnables ont dit ça, c'est quand même peut-être un peu beaucoup. Donc, ils ont obtenu quand même un arbitrage de Trump où on n'a pas touché, disons, au programme civil nucléaire iranien, qui était donc visé par les faucons excités. Et en revanche, il fallait lâcher quelque chose à ces derniers, et donc on a lâché la mise sous sanction de Zarif.
Alors, Monsieur Zarif est visé par des sanctions qui interdisent les Américains de faire des transactions avec lui, qui les empêchent de voyager, sauf pour se rendre aux activités de l'ONU à New York. Premièrement, ce sont des sanctions qui ne touchent pas particulièrement Monsieur Zarif, puisqu'il se défend d'avoir toutes sortes d'actifs aux États-Unis. Et puis surtout, est-ce qu'en visant des diplomates, on n'affaiblit pas la diplomatie?
Ah bah oui, ça c'est tout à fait clair, hein. Ça va pas aider les choses. Il faut dire qu'il y a eu aussi un élément assez intéressant, c'est que Trump a proposé de recevoir Zarif alors qu'il se trouvait à New York. Et Zarif, c'était d'ailleurs prévu d'avance, hein. Il a consulté ses chefs, il a consulté le guide suprême et il a refusé. Et ça a probablement vexé Trump et ça a ajouté probablement à l'envie de le sanctionner. Et à cela s'ajoute, il faut dire, une sorte de jalousie des Américains à l'égard de Zarif, parce que Zarif est un brillant diplomate, hein, il faut bien le dire. Il parle l'anglais parfaitement, il connaît très bien.
Il a été formé dans les universités américaines.
Mais absolument, absolument. et il profitait de ses voyages à New York pour précisément vendre en quelque sorte la politique iranienne, rencontrer le maximum de responsables. Alors on me dit, mais comment se fait-il qu'il venait à New York, puisqu'il n'y a pas de relation diplomatique, vous le savez bien, entre les États-Unis et l'Iran, mais vous l'avez laissé entendre, du fait que les États-Unis accueillent l'Organisation des Nations Unies, ils ont l'obligation de recevoir tous les diplomates qui viennent travailler à l'Organisation des Nations Unies, qui viennent travailler à l'ONU. Et c'est ainsi que Zarif tirait profit, en quelque sorte, de cette faille du dispositif pour arriver à présenter sous son meilleur jour la politique iranienne et à défendre, disons, la ligne iranienne à l'égard du public américain.
Alors François Nicolau, vous restez avec nous. Julien, à Kinshasa, avait une autre question.
Oui. Trump affirme imposer ses sanctions pour affaiblir Téhéran. Alors je voulais savoir quels impacts pourrait-elle avoir sur le régime iranien.
Alors François Nicolau, ces sanctions contre des dirigeants iraniens, y compris contre Mohamed Jawad Zarif, qui est réputé plutôt modéré, vous l'avez dit, est-ce qu'elles affaiblissent le régime de Téhéran ou au contraire, est-ce qu'elles renforcent les plus durs et les plus intransigeants ?
Non, en effet, je pense que Julien l'a bien senti, ça renforce les intransigeants. Ce qui est assez curieux, c'est que Zarif était traité par les intransigeants de mou, de trop modéré, de trop gentil à l'égard des Américains, et ça le renforce lui-même, parce qu'il peut dire, maintenant vous voyez, je suis sanctionné comme vous, j'allais dire. Et donc, toutes ces sanctions à l'égard des dirigeants iraniens renforce en quelque sorte la solidarité, le réflexe de solidarité de la population, même si le régime n'est pas immensément populaire, il faut quand même le reconnaître. Quand les États-Unis visent par exemple les Pasdaran, les gardiens de la révolution, les traitants de terroristes, la réaction des Iraniens est plutôt une réaction un peu de scandale et de dire mais non, c'est pas normal de faire cela, on peut critiquer les uns et les autres, mais les traiter de terroristes, c'est pas normal. Et à l'égard de Zarif, il y a aussi le même réflexe de solidarité, de ralliement autour du drapeau, comme on dit.
Ouais, Mohamed Zarif qui a été l'architecte côté iranien de l'accord sur le nucléaire en 2015, dont Washington s'est retiré en 2018. Quelle peut être la suite des événements, François Nicolau, notamment quand on voit tout ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz, qui est, je le rappelle, le point de passage prioritaire d'une grande partie de la production mondiale de pétrole et qui est disputé par l'Iran et les Occidentaux?
Ben oui, en effet, c'est une région où il y a énormément de tensions, tout le monde s'en rend bien compte. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que jusqu'à présent, les deux parties, américains et iraniens, font quand même attention de ne pas franchir la ligne rouge qui serait, disons, le premier mort. Ça, c'était intéressant de voir que Trump renonce à une opération de représailles armée à la suite de la destruction d'un drone américain par les Iraniens, précisément parce que ça allait faire des morts. Personne ne veut faire le premier mort parce que on se rend très bien compte qu'à ce moment-là, on entre dans un domaine inconnu et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, il y a une certaine prudence. Mais la crise est toujours là, la tension entre les deux pays est toujours là. Alors vous avez remarqué que les Européens essayent un peu d'aider, de trouver des solutions. On est dans une phase quand même de négociation intense, de médiation intense. Tout le monde se remue beaucoup en Europe, le président français, Emmanuel Macron, mais il y en a d'autres, le président irakien par exemple, les Omanais, enfin, tout le monde essaye quand même de faire baisser la tension en ce moment en essayant de trouver un accord au moins limité, disons, pour calmer le jeu entre Iraniens et Américains.
François Nicolau, puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler à Julien et à nos auditeurs pourquoi est-ce que Donald Trump est si dur avec l'Iran alors que pendant ce temps, la Corée du Nord teste de nouveaux missiles et ne provoque plus l'ire du président américain? C'est dur à comprendre.
La politique et même la politique étrangère est le jeu de passion, souvent de passion personnelle. Et je crois, je suis pas seul à le croire, beaucoup d'experts le pensent, l'hostilité de Trump viscérale vraiment à l'égard de cet accord nucléaire tient au fait que c'était un succès d'Obama. Et Obama, bon, est vraiment la personne la plus détestée.
Il fallait absolument le détricoter.
Voilà, il fallait détricoter. Au fond, Trump s'emploie à détricoter tout l'héritage d'Obama sur le plan intérieur. Vous avez vu, il a détricoté le plan de sécurité sociale, l'Obamacare, qu'avait créé Obama, et sur le plan extérieur, où c'était le grand succès diplomatique d'Obama, là aussi, il s'est employé à le détricoter.
Oui, donc il se dit, à un an de la prochaine élection, il faut que je poursuive sur cette voie.
Il faut que je poursuive sur cette voie, mais en évitant d'entrer dans une guerre, parce qu'il sait que s'il y a, enfin pas même une guerre majeure, mais s'il y a des opérations militaires, s'il y a des morts, comme je disais, s'il y a des morts américains, ça sera très mauvais pour la campagne électorale, pour lui.
Merci François Nicolau d'avoir été en ligne avec nous. Julien, est-ce que vous êtes satisfait des réponses de François Nicolau ?
Ben, je suis satisfait au-delà de mes attentes, François.
Merci alors Julien, et merci de votre fidélité à Kinshasa, où il est 9h22. À Lomé, il est 1h de moins. Anissé est avec nous, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs.
Anissé, vous aviez des questions sur le cas de Caster Semenya, l'athlète sud-africaine, la reine du 800 mètres, qui est mise hors piste pour les prochains mondiaux d'athlétisme. Allez-y.
Exactement. La Cour suprême suisse a finalement levé la suspension provisoire du règlement émis par l'IAS qui impose aux athlètes hyperandrogènes comme Caster Semenya de suivre un traitement. Comment expliquer ce revirement de la Cour suprême suisse ?
Cédric De Oliveira du service des sports est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour François.
Alors on va peut-être déjà reprendre la chronologie de cette affaire. Cédric, pourquoi ces règlements de l'I2AF et quelles sont les différentes étapes qui ont mené à cette dernière décision de la Cour suprême suisse ?
Alors on rappelle donc que la Sud-Africaine est une athlète hyperandrogène, c'est-à-dire que son corps produit naturellement plus de testostérone que la normale, ce qui améliore significativement les performances sportives selon une étude de l'I2AF. Pour l'instant, l'équité sportive dans la catégorie féminine n'est pas respectée dans les épreuves allant du 400 mètres au mile à peu près. Les compétitions dans lesquelles Semenya est performante, même si Anissé l'a dit, elle règne surtout sur le 800 mètres, une distance dont elle est double championne olympique et triple championne du monde. Alors la Fédération internationale d'athlétisme a donc mis en place un règlement qui stipule que si une athlète hyperandrogène veut concourir sur ces distances, elle doit faire baisser son taux de testostérone avec un traitement. Règlement entré en vigueur le 8 mai dernier, inacceptable pour Semenya qui refuse ce traitement. Elle le considère comme discriminatoire. Elle a donc déposé deux requêtes, l'une devant le tribunal arbitral du sport, on y reviendra, et l'autre donc devant le tribunal fédéral suisse. Un recours au civil, alors il faut bien différencier les deux, hein, mais comme le TAS est basé à Lausanne et qu'il a débouté Semenya en mai dernier, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême suisse. Les juges, par précaution, ont d'abord suspendu provisoirement ce règlement autorisant Semenya à courir avant de considérer après plusieurs semaines que sa requête était infondée. Ils ont aussi précisé que leur pouvoir d'examen était limité en cas d'arbitrage international, d'autant plus lorsque ça ne concerne pas l'ordre public, les compétitions de l'I2AF étant effectivement organisées dans un cadre privé. Le tribunal fédéral suisse ne s'est pas estimé légitime pour empêcher ce règlement.
Voilà, donc c'est un petit peu difficile à suivre. J'espère, Anissé, que vous en avez compris en tout cas l'essentiel de cette bataille juridique. Vous aviez une autre question, je crois.
Oui, existe-t-il d'auto-recours en justice pour Caster Semenya afin qu'elle puisse concourir au championnat du septembre 2019 ? Peut-elle participer au championnat si elle suit le traitement prescrit par l'IAF ?
Cédric, est-ce que Caster Semenya a encore une chance d'être à Doha ?
Ça va être très difficile. Alors, elle a fait appel de la décision du tribunal arbitral du sport. C'est encore en cours, mais le jugement pourrait être rendu après les mondiaux d'athlétisme qui auront lieu fin septembre à Doha, au Qatar. Elle a encore la possibilité de faire appel contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Elle pourrait faire valoir une violation des droits de l'homme concernant ce règlement. Mais là encore, cette procédure pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le prochain objectif pour Semenya vraisemblable, ce sera probablement les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, à moins qu'elle décide finalement de suivre ce fameux traitement qui ferait baisser son taux de testostérone auto-autorisé par l'I2AF. Il n'y aura alors pas d'obstacle à sa participation, ni aux Mondiaux, ni aux Jeux Olympiques.
Mais jusque-là, Cédric, elle s'est toujours refusée à prendre ce traitement.
Ah oui, c'est même un combat. Elle, en tout cas, maintenant, elle est vent debout, en tout cas, contre ces décisions. Pour elle, c'est clairement discriminatoire. On rappelle qu'elle sécrète normalement et naturellement, en tout cas, ce taux d'hormones, ce qui voudrait dire effectivement qu'un traitement, en tout cas hormonal, déréglerait tout ça. Pour elle, c'est inacceptable.
Oui, surtout que on a l'impression que c'est une législation taillée sur mesure pour elle contre sa domination.
Alors, elle n'est pas toute seule dans ce cas-là. Il y a d'autres athlètes, en tout cas, qui sont considérés par ce traitement-là, en tout cas ce règlement. Mais Semenya, elle archidomine sa discipline, donc c'est elle qui symbolise en tout cas le mieux ce combat, et en tout cas elle va avoir du mal en tout cas à pouvoir concourir si elle ne prend pas ce traitement.
Merci Cédric de Oliveira d'avoir été avec nous, et merci à Anissé qui était en ligne de Lomé au Togo. Sans plus attendre, nous allons en Mauritanie où on va débuter avec un petit peu d'avance notre débat du jour sur la prise de fonction du nouveau président Mohamed Razouani, qui a donc pris ses fonctions jeudi à la tête de la Mauritanie en remplacement de Mohamed Ould Abdelaziz. Hamza est en ligne de Nouakchott. Bonjour Hamza.
Bonjour.
Pour vous, Mohamed Ould Razouani, c'est la poursuite de la politique de Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé le pays ces 11 dernières années, depuis le coup d'État d'août 2008, et c'est tant mieux.
Oui, c'est tout à fait tant mieux, parce que je considère que c'est une continuité, c'est l'aboutissement d'un combat. C'est en fait quelqu'un qui a toutes les dispositions, à mon sens, pour pouvoir continuer la grande œuvre du président Aziz, et c'est tant mieux pour la Mauritanie, c'est que du pain béni.
Alors, qu'est-ce qui attire chez vous tant de sympathie pour l'héritage du président Aziz?
Tout simplement parce que étant vivant en Mauritanie, j'ai quand même vu de mes yeux. C'est pas des ondits, c'est pas des trucs. J'ai vu de mes yeux les énormes progrès qui ont été faits sous le magistère du président Aziz.
Quel type d'avancée?
Par exemple, dans les infrastructures, dans la liberté de la presse, dans la démocratie, dans le respect du citoyen. Il faut le dire, que la Mauritanie quand même passe aujourd'hui pour être le premier pays en matière de droit d'information ou de presse en Afrique.
Aujourd'hui, Hamza, pourtant, on a vu dernièrement deux cas qui pourraient inquiéter peut-être de l'extérieur. Déjà, le blogueur Mohamed Ould Mreitir, qui a été libéré après avoir passé 5 ans en prison pour avoir critiqué l'utilisation de la religion, pas la religion en elle-même, mais l'utilisation qui en est faite pour maintenir, disait-il, un système de caste en Mauritanie. Et puis deuxièmement, le journaliste d'une télévision d'opposition, Monsieur Wedia, qui lui a passé 12 jours en prison parce qu'il réclamait des améliorations des droits humains. Ce n'est pas quelque chose qui vous alarme?
Je ne suis absolument pas d'accord avec l'approche que vous avez de ces deux cas. Ould Mreitir, c'est quand même quelqu'un qui s'est attaqué au prophète de la religion principale de ce pays, aux uniques religions de ce pays. Ould Mreitir, de lui-même, il l'a reconnu de lui-même en disant qu'il a manqué de respect et qu'il a insulté le prophète. Deuxièmement, pour le cas de M. Wadia n'est pas parti en prison parce que c'est un journaliste. Il est parti en prison parce que c'est un homme politique, parce qu'il avait affaire à il n'avait absolument pas du tout. C'est pas parce qu'il a écrit quelque chose ou qu'il a dit quelque chose qu'on l'a arrêté. Non, il a été arrêté à la suite d'une affaire politique.
Merci Hamza d'avoir été en ligne de Nouakchott. Ce débat se poursuit dans 10 minutes après le journal, après donc cette passation de pouvoir à Nouakchott entre les présidents Abdelaziz et Razouani.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.